mari cuse chiso, mari cuse chiso, mari chiso. Ma come on a activity, on a activity, on a activity.
Quand tu dis que la police c'est des chiens, après avoir vu son frère violemment arrêté par les tiens pour quelques grammes, le shit n'en plus jamais la loi des trams. Style enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Eh flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup de poing, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif, voilà, on voit rien que derrière les fans que tu envoies. T'attends qu'une chose, c'est que l'aide nous perde son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à glace. J'ai la haine quand je vois un frère à moi qui s'est fait ta base.
Fermez la rue qui souffre. Plus de 60 000 détenus, les prisons sont à bout de souffle.
I am dangerous, dangerous, dangerous.
Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon?
Car tout porte à croire que les tiégards ont toute la France contre eux.
Dangerous, dangerous, dangerous.
Au départ à Benoît, c'est pas une nouveauté. Au tribunal, on s'en sort toujours mal. Ça se ressent dans les sentences, on n'a jamais eu de chance.
Dangerous, dangerous, dangerous.
On est soudés, solides et solidaires.
Je sais ce qu'ils veulent m'offrir. Une mort lente et douce pour moi. Oui, c'est ce qu'ils veulent, mon frère.
Je veux pas rester ici.
Bon sang, laissez-moi en sortir.
Je suis soi-disant ici pour aller mieux.
Mais c'est encore pire.
Si c'est là-dedans que je dois m'habituer, c'est là-dedans que j'ai envie de tuer.
Est-ce que je demande
ma liberté me soit restituée?
Besoin d'évasion, évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, les murs, les esprits, les rats la nuit. On veut s'échapper de la prison.
Libérez,
je dois m'évader,
ça c'est déjà fait, je sais que c'est possible.
Y'a comme un goût de boum dans le cœur de mes soeurs.
Tout pété, tout démonté.
Aujourd'hui, nous avons besoin de renouveler ce qu'on appelle la lutte anticarcérale.
Salut.
Coucou.
Vous écoutez Radio Kaléidoscope et c'est l'émission Les murs ont des oreilles. Du coup, une émission de radio qui passe le troisième mercredi de chaque mois sur 97 FM. À 19h, et l'idée de cette émission, c'est de faire circuler les infos sur la lutte contre les prisons et de lutter contre toute forme d'enfermement. Ce soir, on va parler plus particulièrement de faits qui se sont passés au centre de détention de Rouen la semaine dernière. Et en fait, on va revenir un petit peu sur l'agitation qu'il y a là-bas depuis plusieurs mois. En fait, on en avait parlé lors d'une précédente émission. Voilà, donc on va parler de ça, on va parler de Rouen et on va parler aussi un peu du rendu d'un procès qui a eu lieu à Paris, le procès pour les histoires de mauvaises intentions. On va parler aussi rapidement du rendu d'un procès qui a eu à Chambéry, puis on donnera quelques petites brèves. Voilà, c'est un peu le programme de ce dont on va parler ce soir. Et donc on va commencer tout de suite avec les histoires de ce qui s'est passé ces derniers temps au centre de détention de Rouen. Donc en fait, comme on en avait parlé, à la fin du mois d'avril dernier, il y a une lettre de revendication qui était sortie, qui avait été écrite par des prisonniers là-bas, et qui avait été d'une part transmise à la direction et à la juge d'application des peines, et d'autre part qui avait été rendue publique. Donc elle avait circulé de différentes manières à l'extérieur et aussi dans d'autres prisons, dans l'idée que les choses qui étaient mises en avant par les prisonniers, c'était des choses qui concernaient beaucoup d'autres gens et que il y avait l'envie de pouvoir créer de la solidarité par rapport à ce qui était dit dans cette lettre. Ça portait sur pas mal de choses, notamment la fin du mitard, la fin de l'isolement, la fin des fouilles au moment des parloirs, les conditions de travail à l'intérieur, et aussi le fait qu'il y avait dans ce centre de détention plusieurs régimes d'incarcération, et notamment le régime ouvert, le régime semi-ouvert et le régime fermé, donc qui concerne quand même pas mal de gens là-bas. Et le régime fermé, c'est les gens qui sont maintenus en cellule toute la journée, avec un accès aux promenades, aux activités, au téléphone et à tout un tas de choses qui est beaucoup plus restreint que pour les gens qui ont un régime de détention ordinaire. Voilà, donc cette lettre de revendication, elle avait circulé. Suite à ça, le week-end d'après, il y avait eu un rassemblement en solidarité devant le centre de détention. Et il y avait eu pas mal de baroufs dans le week-end. Notamment, il y avait eu un incendie de cellule et il y avait eu ce que la presse avait appelé des agressions de surveillants. Par exemple, une des personnes qui avait été accusée d'avoir agressé un surveillant s'était fait, au moment de l'altercation, sévèrement tabassé par les matons, avait été ensuite mis au mitard et était passé en procès. Et donc il y a un compte-rendu du procès qui a été rendu public et qui parle un petit peu de ça. Il y a aussi une lettre qui est sortie d'un prisonnier qui est au centre de détention de Rouen et qui parle un peu de ce que lui y vit depuis qu'il est là-bas, et plus particulièrement de ce qui se passe au bâtiment zéro, c'est-à-dire ce qui correspond aux gens qui sont en régime fermé, à lui et à d'autres, et qui permet de comprendre un petit peu mieux c'est quoi ce que vivent les gens qui sont dedans. Parce que du coup, donc on reviendra en fait sur ces différentes choses dont j'ai parlé. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que donc la semaine dernière, c'est-à-dire plus précisément mercredi 4 juillet, après un moment de promenade, il y a quatre prisonniers qui ont refusé de remonter de la promenade. Et donc il y a une dizaine de matons qui sont arrivés casqués, avec des boucliers, avec leur équipement là de Robocop, qui sont descendus pour les faire remonter. Et l'intervention des surveillants a été filmée par téléphone portable et elle a été mise sur Internet, et donc elle a circulé et elle a été vue publiquement. Donc ça a fait un peu du barouf. Et d'une part, ce que ça permet de voir sur cette vidéo, c'est que on voit assez bien que quand les matons arrivent, ils se précipitent en fait sur les prisonniers qui, eux, n'ont pas de casque, de bouclier et tutti quanti. Qu'il y en a qui lèvent les bras super vite, de manière très visible, pour dire ben c'est bon en fait. Enfin bon, bref, voilà, je vais pas dire ce qu'ils veulent dire, juste on voit bien qu'ils arrivent et qu'ils lèvent les bras qui se font vraiment courser. Ceux qui se font attraper, ils se font tabasser à plusieurs contre un, vraiment vraiment salement. Et on voit très bien sur les images la violence qui est employée contre eux pour les faire remonter de promenade, et que eux ils ont à ce moment-là pas les moyens en fait de se protéger contre la violence qui leur est faite par les surveillants. Suite à ça, en fait, les quatre personnes sont mises en isolement depuis il n'y a pas de nouvelles d'eux. Donc on peut imaginer qu'ils ont quand même été très salement amochés, parce que ce qu'on voit sur les images, c'est quand même qu'ils se font bien latter à plusieurs contre un, et qu'ils n'ont pas de moyens de se protéger ni de se défendre. Donc cette vidéo, elle a tourné et elle était accompagnée notamment d'une lettre qui a été écrite par des prisonniers qui voulaient d'une part expliquer un peu plus précisément ce qu'il y avait sur la vidéo, parce qu'en fait elle est assez courte, hein, elle fait 2 minutes 50. Donc la vidéo, on peut la trouver sur différents sites internet, par exemple sur Rebellion, donc c'est rebelyon.info, avec aussi pas mal d'autres infos sur ce qui s'est passé là-bas. On peut aussi la trouver sur YouTube, donc ça permet un peu de, bah, de voir ce que c'est. Et donc l'idée de faire une lettre aussi qui accompagne cette vidéo, c'est de pas juste montrer des images choc, mais un peu d'expliquer dans quoi ça, enfin, qu'est-ce qu'il y a avant et après ça, et c'est quoi ce qui se passe au centre de détention. Du coup, on va vous lire cette lettre et puis on en parlera un petit peu après.
Les revendications portaient sur une modification des horaires de promenade et sur toutes les précédentes revendications publiées le 25 avril 2012 par les détenus de Roanne. À 18h45, les quatre détenus refusent de remonter en cellule et demandent à être entendus dans un esprit pacifique. Boyer, le directeur du centre de détention, préfère lâcher ses chiens, environ 10 surveillants équipés de casques, boucliers. La procédure d'intervention de l'administration pénitentiaire n'est pas respectée et l'action menée à la cow-boy met sans lasso. L'intervention a d'abord porté sur deux détenus âgés d'une vingtaine d'années, malgré qu'un des détenus ait ostensiblement levé les mains en l'air. Dans la foulée, un groupe de surveillants a chargé bouclier en avant deux détenus. Ceux-ci ripostent pour repousser l'assaut. L'un d'eux se fait ceinturer immédiatement, les autres détenus s'éparpillent dans cette cour sans issue. Les surveillants se sentent dépassés, ce qui a décuplé leur agressivité. La chasse à l'homme est alors ouverte. Plaquage à la rugbyman, balayette à la Bruce Lee, les surveillants ont fait l'étalage de leur supériorité physique et numérique. Jusqu'à l'ultime action, l'agression d'un prisonnier âgé dont le seul tort était d'être en promenade. Boyer récidive donc dans la manière de gérer les revendications des détenus. Déjà à Corba, en 2010, deux surveillants avaient été condamnés pour des faits de violence envers des détenus. Ce directeur exprime sa toute-puissance dans son centre de détention, déclenchant l'assaut sans négociation et avant même l'horaire de fermeture des cellules, ce qui est vécu comme une provocation par des détenus de Roanne. Certains ont jeté des projectiles type bouteille d'eau, savon, javel, en solidarité avec les quatre victimes de cette nouvelle bavure de Boyer. Les quatre détenus ont été jetés manu militari au mitard et nous sommes depuis sans nouvelles. Nous, détenus de Roanne, attestons avec une vidéo à l'appui de la non-violence de ces revendications légitimes et réclamées par l'ensemble des détenus et de la violence extrême de l'administration pénitentiaire sur ces quatre détenus. Nous témoignons de l'acharnement des surveillants sur le plus âgé des quatre. Nous sommes solidaires de nos compagnons et témoignons avec une vidéo et ce texte. Les détenus de Roanne.
Déjà, on avait envie de revenir sur des choses qui sont dites dans cette lettre. Bah, déjà, ça montre que, par exemple, au moment où il y a l'intervention des surveillants, il y a des gens qui manifestent de la solidarité en balançant des projectiles, en faisant un peu du bordel, en faisant ce qu'ils peuvent en fait, bah, pour encourager les détenus qui sont en bas et bien montrer leur hostilité aux surveillants. Ben, ça c'est chouette, qu'il y ait ces réactions de solidarité quand il se passe quelque chose comme ça. Et aussi que le fait de décider de filmer la scène et de rendre ce truc public, c'est aussi un acte de solidarité et qu'on tient à préciser. Après, il y avait aussi l'envie d'expliquer quand ça parle du fait que l'intervention des surveillants ressemble à une provocation. En fait, ce qu'il faut bien aussi comprendre à ce moment-là, c'est que les surveillants, ils interviennent à un moment où les cellules, elles sont encore ouvertes. Ce qui fait que c'est pas un moment où tout le monde est confiné dans sa cellule et où personne ne peut rien faire. C'est un moment où, pour eux, c'est un peu comme assumer de dire aux autres, bah, regardez, en fait, vous êtes tous dehors et en fait, on n'attend pas que vous soyez rentrés, on y va et on vous emmerde. Et on vous signifie de manière très concrète que la moindre personne qui décidera de se rebeller, elle subira la même chose, c'est-à-dire nous à plusieurs contre vous et brutalement. Donc le message, il est très clair à ce moment-là. Il y a aussi quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans cette lettre, c'est le fait que les prisonniers qui étaient dans la cour de promenade, ils avaient une attitude pacifique. Et en fait, ce qu'on veut préciser par là, c'est pas tant enfin, en tout cas, ce qu'on y voit, c'est pas tant le fait qu'il y avait une idée de non-violence ou je sais pas quoi, mais de montrer que à ce moment-là, ce qui se passe, c'est quelque chose qui est un refus de remontée de promenade, voilà, et que la réponse qui est opposée par l'administration pénitentiaire, c'est une réponse qui est ultra violente, ultra brutale. Et en fait, si eux, ils avaient réagi comme ça face à quelqu'un qui se rebellait ou quelqu'un qui refusait de remonter de promenade de manière violente, on aurait aussi trouvé que c'était dégueulasse. On aurait eu envie aussi d'en parler et de solidariser avec ce qui s'était passé, parce que c'est pas le fait que le refus de remonter de promenade, il était non violent ou pacifique ou je sais pas quoi, qui fait que ça nous parle plus, en fait.
Un peu pour revenir sur la même idée, à un moment on s'est dit que ces revendications sont légitimes, et en effet nous on les trouve légitimes, mais probablement que les gens qui, je sais pas, les matons, les directeurs ou les gens qui font tourner les tôles, ils vont pas trouver que ces revendications sont légitimes, et donc juste affirmer ça comme un critère objectif, c'est un peu compliqué, et dire que moi en tout cas je trouve la légitimité dans cet acte de refus ou de désobéissance ou de révolte, je le trouve dans le fait qu'il y ait un moment, une révolte face à une oppression qui est subie. Et c'est là que je vois la légitimité et pas tellement dans la reconnaissance par une opinion publique ou par des institutions qui probablement, elles, trouvent que ça n'a rien de légitime, que quand tu es prisonnier, tu dois accepter tes conditions. Et donc c'est un peu compliqué d'utiliser des mots comme ça, mais en tout cas nous, ou en tout cas moi, je trouve en effet qu'il y a de la légitimité dans cet acte, mais que cette légitimité, elle doit être expliquée, elle ne va pas de soi. Tout comme quand on dit que c'est réclamé par l'ensemble des détenus, donc que les revendications sont réclamées par l'ensemble des détenus, ben s'ils le disent, probablement c'est vrai. Et en même temps, même s'il n'y avait que 3 ou 4 personnes qui avaient envie de se révolter, et eh ben nous à l'extérieur, si cette révolte elle nous parle, on la relayerait quand même si ça c'est pas un mouvement collectif ou unitaire, parce qu'il nous semble que toute révolte contre l'oppression subie mérite d'être soutenue, et en tout cas c'est ça qui nous parle dans cet acte.
Aussi, envie de préciser un truc, là ça parle de bavure. Alors la bavure, ça serait un peu comme un truc qui dérape, qui n'arrive jamais, qui est une erreur. Or, on ne pense pas que ce soit si exceptionnel que ça, de se faire tabasser quand on est en prison. Et un des exemples, celui de la personne qui passe en procès parce que il est accusé d'avoir balancé un frigo sur des surveillants et que, en fait, au moment, enfin, lui, sa version des faits, elle n'est évidemment pas la même que celle des surveillants. Et sa famille qui vient le voir une semaine après les faits, du coup lui il est au mitard suite à ça, etc. Quand elle le trouve, il est couvert de bleu, d'hématomes, de marques de coups. Voilà, donc ça paraît pas si rare que ça en fait. Voilà pour les quelques mots qu'on voulait dire au sujet de cette lettre, et surtout de ce qui s'est passé. Et on voulait passer à la suite parce que en fait ça ne s'arrête pas là. Donc voilà, la vidéo elle circule. Il y a même les médias, un peu les gros médias qui en parlent, donc d'une manière qui va plutôt dans le sens de l'administration pénitentiaire et des surveillants, comme c'est bizarre. Par exemple, la vidéo, elle passe notamment au journal de France 3, mais elle passe entrecoupée par des commentaires de surveillants. Elle passe aussi avec une interview téléphonique d'une personne qui est détenue à Rouen et qui parle notamment des revendications en fait, des prisonniers. Et en fait, on imagine bien que les médias choisissent ce qu'ils ont envie de mettre en avant dans le discours, c'est-à-dire ce qui va plutôt dans le sens de l'administration pénitentiaire, de l'autorité, de tous ces trucs-là. Et donc, ils parlent d'une demande d'activité, de trucs comme ça, mais les revendications beaucoup plus importantes qui étaient mises en avant, notamment dans la lettre de revendication du mois d'avril, là, il n'en est pas question. Pourtant, elles existent et on le sait bien. Quand cette vidéo, elle tourne sur Internet et compagnie, Il y a des articles qui paraissent dans Le Progrès, La Tribune, donc c'est le torchon local de Rouen, et notamment les surveillants qui prennent la parole par le biais de leur syndicat et qui disent quelque chose qui est quand même assez curieux. C'est que eux, ils disent que la vidéo qui a été réalisée lors de leur intervention ne serait pas un hasard et qu'ils ont le sentiment d'être piégés parce qu'ils disent que c'était une sorte de défiance de l'autorité et que en fait, ils ont seulement fait leur travail. Donc, y a déjà deux trucs qui apparaissent un peu contradictoires. C'est-à-dire que s'ils ont seulement fait leur travail, c'est qu'en fait, ils reconnaissent que leur manière d'agir à ce moment-là, elle était tout à fait normale, assez semblable à ce qu'ils ont l'habitude de faire, d'une part. Et d'autre part, qu'ils aient été piégés. Pourquoi, en fait ? Parce que c'est leur manière de faire habituelle, et ben, ça montre bien que juste ce genre de violence et d'événements, en fait, il n'est pas exceptionnel que quand il y a un refus de promenade ou autre, leur réponse à eux, c'est celle-ci, en fait. Il y a d'autres trucs, en fait, qui sont dits dans le journal, notamment le fait que la nuit du jeudi au vendredi, il y aurait 200 tracts anti-maton, dixit le journal, qui auraient été collés à Rouen. Et du coup, des tracts dans lesquels des surveillants sont cités nommément. Et donc, à nouveau, le délégué régional de la CGT pénitentiaire fait un petit communiqué en disant que sur ces affiches, il y a des propos fallacieux et calomnieux qui ont été dits et qui stigmatisent le comportement des surveillants du centre de détention de Rouen. Parce que ces surveillants sont comparés à des bourreaux, entre guillemets, hein, à chaque fois, c'est les propos des surveillants. Que 4 surveillants qui sont cités avec leur nom sont accusés de tabasser des prisonniers, entre guillemets, et que donc ils vont porter plainte, blablabla. Et en fait, comme cette affiche elle a été reproduite par le journal, on va vous la lire.
En sachant qu'il y a donc les noms des matons, c'était 3 ou 4 noms qui étaient cités sur l'affiche. Ils ont été floutés, donc ça va faire un... Vous allez l'entendre au moment où on va lire l'affiche. Donc l'affiche disait « À Rouen, des matons harcèlent des prisonniers. Ils les empêchent d'aller en promenade. Ils les insultent pour les faire craquer. Ils humilient les proches lors des parloirs. Ils les mettent à l'isolement, au mitard. À Rouen, et d'autres, tabassent des prisonniers. Le 4 juillet, 4 prisonniers refusent de remonter de promenade pour obtenir des changements dans leur régime de détention. 10 matons arrivent avec leurs armes et leurs boucliers et les tabassent. Depuis, ils sont en isolement. Ce n'est pas une bavure, c'est une méthode. Il n'y a pas de bons matons, détruisons toutes les prisons. » Donc ça c'était le texte qui a été retrouvé sur l'affiche qui a fait scandale à Rouen et collé apparemment à 200 exemplaires dans la ville.
Et donc, toujours là-bas, suite à ça, donc le week-end dernier, c'était apparemment assez tendu parce que du coup, les ERIS ont été envoyés en renfort au centre de détention. Dans l'après-midi, il a été annoncé dans un premier temps que les parloirs allaient être supprimés. Puis dans un deuxième temps que finalement il serait maintenu mais beaucoup retardé. Et effectivement il y a eu un retard énorme, c'est-à-dire que les familles elles ont dû attendre quasiment tout l'après-midi là-bas pour avoir les parloirs et les derniers sont terminés vers 7h30 du soir. Tous les prisonniers ont été maintenus en cellule, tous les mouvements étaient suspendus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'activité, pas de promenade, rien du tout, tout le monde fermé à l'intérieur. Le motif qui était invoqué, c'est que les surveillants se sentaient en danger suite aux différents événements qui avaient eu lieu et au contexte général. Et apparemment, effectivement, c'était très 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 tendu à l'intérieur, des insultes, des menaces, des départs de feu sous les portes, à travers les fenêtres, des jets de projectiles, etc. etc. Une colère très largement partagée par les prisonniers à l'intérieur de ce centre de détention. Et du coup, on avait envie aussi de parler de ça parce que c'est quand même quelque chose qui se passe pas si souvent que ça, que le rapport de force s'inverse un peu et que les surveillants sentent qu'ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi sans qu'il se passe rien. Et du coup, on voulait aussi diffuser cette info parce qu'il y a l'envie que ça circule à l'extérieur, dans d'autres villes, dans d'autres prisons, que ce qui se passe là-bas, c'est des choses qui se passent aussi ailleurs, que la colère qui est ressentie là-bas, elle peut être partagée ailleurs, dans d'autres prisons et aussi dehors, et que la solidarité dans ces moments-là, c'est ce qui permet de prendre des forces et de pouvoir continuer en fait dans ces moments de lutte. Voilà.
Oui, puis c'est intéressant de voir aussi que dans un moment donné, dans un ensemble de choses, des affiches ou des tracts, ça a pu venir renforcer des mouvements qui sortaient de l'intérieur, donc que des gens à l'extérieur ont pensé à faire quelque chose et ont trouvé un moyen de participer à ça et que ça a vraiment eu de l'écho et apparemment ça a donné la pêche aux gens à l'intérieur. Donc là c'est quand même aussi quand on parle de solidarité, des fois on peut avoir les mains vides face à ça, et là je trouve que c'est plutôt un bel exemple de ce qu'on peut faire dans ce genre de cas et que ça peut avoir des impacts réels au minimum sur comment les prisonniers se sentent moins isolés, moins seuls, soutenus.
Et puis on va continuer à préciser un peu des choses par rapport à Rouen, notamment parce que on voulait revenir sur une lettre qui a été écrite par un prisonnier qui est là-bas et qui parlait un peu de lui, ce qu'il a vécu là-bas et aussi de comment c'est d'être en régime fermé à Rouen. Parce que, par exemple, les personnes qui ont refusé de remonter de promenade, c'est des personnes qui sont aussi maintenues en régime fermé, qui se sont retrouvées avec des suppressions par rapport aux promenades, et que c'est par rapport à ça qu'ils ont dit « non mais là ça le fait pas, en fait, donc on remonte pas ». Donc pour préciser un peu sur cette histoire-là, donc pour commencer la lettre, c'est possible de la retrouver sur Rebellion, mais sur aussi Indie Media Grenoble, par exemple. C'est une lettre qui revient un peu sur le parcours d'une personne qui a décidé, en fait, à l'automne dernier, de faire sortir des pétitions qui parlaient de la manière dont les proches et les visiteurs étaient fouillés au moment des parloirs, mais qui ne parlaient pas que de ça, en fait. Ça parlait aussi de l'exploitation qu'il y a dans les ateliers de travail et d'autres choses. Et en fait, ces lettres, elles ont été transmises. Enfin, quand il a donné ces lettres, en fait, il s'est fait mettre à l'isolement. Donc une première fois, il a pu en sortir pour une histoire de vice de procédure et il a été remis ensuite sur des témoignages de surveillants et aussi un témoignage qui disait qu'il avait soi-disant forcé des gens à signer ces lettres. Il a fait 3 mois d'isolement et suite à ça, il a été maintenu en régime fermé, c'est-à-dire que depuis qu'il est sorti d'isolement, il est dans une cellule en dehors des moments où il peut sortir en promenade, mais sinon avec un accès restreint, comme on disait, au téléphone, aux activités, etc. etc. Il se fait mettre plutôt sévèrement la pression par les surveillants pour des détails, en fait, pour des oui, pour des non. Avec ce truc que tu te prends la pression, que t'as pas envie de baisser la tête et qu'en même temps tu te rends bien compte que en fait ce qui se passe là c'est pour te faire craquer et que si tu craques, c'est-à-dire si tu mets des coups, ce qui peut se passer derrière c'est aussi un procès et des mois ou des années de prison ferme qui se rajoutent comme ça a été le cas pour le procès de Lazare dont j'ai parlé un petit peu au début de cette émission. Voilà, là on va lire les extraits en fait de cette lettre.
Le régime porte fermée. Donc le bâtiment zéro, c'est quand t'es au centre de détention, mais t'as pas les portes ouvertes. Avant, il y avait aussi un bâtiment semi-ouvert. Maintenant, c'est ouvert partout, sauf le bâtiment zéro. Là, on n'a droit qu'à la promenade. On n'a pas droit aux activités. Même en maison d'arrêt, t'as droit aux activités. T'as un office pour faire la nourriture, ben ici, on n'y a pas accès. Le téléphone, ça a changé aussi. Maintenant, on peut appeler qu'à des horaires précis. T'imagines quand on est 30 ou 40, si on veut téléphoner, ben c'est impossible. Et là encore, je dois appeler mon avocate. Ça fait une semaine que je demande et que c'est pas possible. Parce que celle qui s'en occupe est en vacances. Le sport, on peut y aller une heure le matin, une heure l'après-midi, sauf le vendredi. Il faut choisir, soit aller au gymnase, soit aller au foot. Et encore, si tu suis des cours, c'est ou l'un ou l'autre. Par contre, il y a un brigadier qui entraîne les surveillants à l'aïkido. On a eu l'eau coupée en promenade pendant des mois. Il y avait eu des problèmes au niveau des canalisations. Il a fallu gueuler. Avec la chaleur qui revenait, ils l'ont remise seulement il y a un mois. On a la cour qui est vraiment dégueulasse. Avant, je comprenais pas pourquoi certaines personnes qui allaient au bâtiment zéro y restaient longtemps. Bah là, j'ai bien compris, ouais. Je te donne un exemple. Moi, quand je suis venu au bâtiment zéro, ils ont essayé de me chercher la merde. Le 28 mars, le chef du bâtiment a essayé de me provoquer, presque en mettant son corps sur moi pour me faire rentrer dans ma cellule. J'ai vu qu'il voulait à tout prix me coller un rapport d'incident. Entre-temps, j'avais vu la directrice en audience. Je lui disais que j'avais rien à faire en porte fermée, que j'avais pas de rapport d'incident et que je voulais aller en porte ouverte. Elle m'a garanti que je resterai qu'un mois. Et elle me dit, vous savez, c'est pour l'exemple. Je me demande l'exemple de quoi. J'ai fait 3 mois d'isolement, vous voulez quoi encore? Et elle me dit, oui, c'est pas moi, c'est la hiérarchie. J'écris donc à la direction, à Monsieur Boyer, en disant que je ne comprends pas que la directrice m'a dit que j'allais sortir, etc., etc. En fait, ils m'ont fait passer en commission. Et Madame Petit, qui s'occupe de moi normalement, était en vacances. Donc c'est Monsieur Glapier, le sous-directeur, qui était là. En fait, quand tu es en régime porte fermée, il y a une commission tous les mois, où ils décident de t'y maintenir. Et si tu veux en sortir, il faut faire un courrier. Mais personne ne me l'avait dit. En plus, c'est Madame Petit qui dit qu'elle est énervée parce qu'elle était en vacances quand la commission a eu lieu, mais elle n'a même pas laissé une note à mon sujet. Quand je l'ai revue, on a eu un accrochage verbal. Je lui dis qu'elle m'avait promis que j'allais sortir du bâtiment zéro. Elle me répond qu'il aurait fallu que j'écrive, alors qu'elle ne m'a jamais dit ça. J'ai répondu que j'avais rien à lui dire, qu'ils étaient des hypocrites sans parole qui voulaient juste me mettre la misère et me laisser au bâtiment zéro. Comment ils essayent de justifier le maintien en porte fermée? Et là, ils trouvent un prétexte. Ils disent qu'il y a un mois et demi, j'étais au sport et c'était pas mon tour. Et le brigadier est venu me dire de sortir. Je réponds que je ne comprends pas, qu'il n'y a pas eu de rapport d'incident. J'ai vu comment ils font avec moi et tout un tas de jeunes qui sont là. Ils leur trouvent des prétextes pour justifier leur placement au bâtiment zéro. Mais vraiment des histoires de rien. Quand je suis arrivé par exemple, il y a des jeunes, ils leur disaient « Tu n'auras pas d'UVF parce que tu as eu un rapport ». Du coup, ils lui mettent une sanction avant de passer au prétoire. Et après, en plus, tu te tapes le mitard. C'est quand même cher payé, non? J'ai remarqué que plusieurs fois, ils m'ont appelé en me disant par exemple « Oui, il y a 2 mois en arrière, vous avez traîné devant la coursive. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?»« Non mais vous rigolez, je leur dis. Ça sert à rien de m'appeler pour ça. Des trucs d'il y a 2 mois en arrière, je me rappelle même plus de ce que vous me dites. » Vous vous mettez des rapports comme ça pour justifier mon placement en porte fermée. Bon, et voilà le temps qui passe. Ils essayent de me mettre des rapports et faire monter la pression pour chaque petit détail. Par exemple, à un moment, on avait le droit au bâtiment zéro de faire des machines à laver tous les jours. Maintenant, c'est 1 jour sur 2. Il y a un côté qui a droit à 1 jour et l'autre à 1 autre. Dans les autres étages, ça n'existe pas ça. Pareil pour le téléphone. C'est des pressions psychologiques, on a droit à rien, pas de salle d'activité, on est dans le bitume, ça va faire 12 piges à la fin de l'année que je suis en prison. Je ne comprends pas cet acharnement contre moi.
Voilà, du coup, en vrai, cette lettre, elle est quand même super longue. Elle parle de plein de trucs, notamment des embrouilles qu'il a eues avec les surveillants, de comment ils le lui ont fait payer, de comment ça se passe les systèmes de fouilles, de l'exploitation par GEPSA, donc c'est l'entreprise qui se fait bien son pognon en exploitant les prisonniers à l'intérieur. Et donc là, on va pas. Enfin, vu qu'elle est super longue, on a choisi de lire juste les extraits qui parlaient du régime porte fermée parce que c'était un peu de ça qu'on avait parlé avant. Mais ça vaut le coup de la lire aussi par rapport au reste. Donc en fait, cette lettre, elle a été écrite par Monsieur Askar Oğlu. Et donc si vous tapez ça sur internet, vous pouvez le trouver. Et aussi, c'est possible d'appeler l'administration pénitentiaire. Donc au 04 77 23 82 97, en demandant un peu c'est quoi ce qui se passe en ce moment au centre de détention de Roanne, comment ils vont les quatre personnes qui ont été mises à l'isolement après s'être fait tabasser par les surveillants, et pourquoi M. Askar Oğlu il est toujours en régime porte fermée. Enfin, en fait, il y a plein de trucs à demander pour que leur journée elle se passe pas tout tranquillement, comme si de rien n'était. Et aussi plein de choses à imaginer. Je répète le numéro, c'est 04 77 23 82 97. Là, on a quand même beaucoup parlé, on va faire une petite pause pour écouter de la musique.
Oui, donc c'est une petite chanson qu'on a retrouvée sur une compilation qui est sortie suite aux émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. Et cette compilation s'appelle C7H16, j'ai la rage, je la garde. Donc elle est encore elle se trouve plus trop, mais elle est encore téléchargeable sur internet sur un site que je vais vous donner. Donc c'est C7H16, donc la lettre le chiffre, c7h16.internetdown.org. Donc internet down, c'est internet comme internet, et puis down down.org. Et donc c'est une compilation qui était sortie avec un petit livret qui parlait des événements de 2005 et qui était accompagné d'une petite nouvelle. Et là, on va lancer un morceau.
J'irai à l'Élysée brûler ma carte de résident. Avant que les KISDN réalisent, j'aurais kidnappé la femme du président. Je l'emmènerai dans ces coins sordides où les Français vivent la mort au bide. L'esprit plein d'idées morts bide. Je lui collerai un voisin taré, 5 gosses dans un 40 mètres carrés. Comme un papillon, je lui couperai les ailes. Le président dira que ça pue chez elle. Elle aura un mari au chômage depuis 2 ans. Jean plein de poches, rien dedans. Elle vivra l'esprit torturé comme par une rage de temps. Je lui ferai la peau mate, couleur sombre que les flics mate. Grillé jusqu'à l'épiderme, sa vie emportera les stigmates. Elle vivra comme elle peut parce qu'elle aura pas de taf. Elle vivra de rien parce qu'elle aura pas de faf. Les barreaux, le plus jeune tombe pour une Marlboro. Son quotidien, prison pleine, journal du soir, chrysanthème. Son jardin secret, un champ de chrysanthème. Elle pleure, un boulard souille son honneur. Elle saura pourquoi mes textes respirent le bonheur. Charentaise, Nike, rose, meringue, prose de poudre blanche, sa vie écrite à l'encre d'une seringue. Et puis, je l'emmènerai au sommet d'une tour, contempler sa nouvelle vie, et je la laisserai là, seule devant le vide. Seule. Puis je la laisserai là, seule, devant le vide.
Donc voilà, on est toujours sur l'émission radio Les Murs ont des oreilles. Après le petit interlude musical, on voulait recommencer avec quelques brefs, parce que des fois il y a des choses plus ou moins chouettes qui se passent à l'intérieur ou autour des prisons. Par exemple, là on a lu sur internet quelque chose qui s'est passé à la prison de Forest à Bruxelles, en Belgique. Donc c'est une prison qui est encore vraiment située dans la ville. Et donc on a trouvé une petite information qui dit que le vendredi 29 juin, en matinée, le fonctionnement de la prison a été perturbé. Donc apparemment des personnes auraient répandu une quantité suffisamment importante d'huile sur la chaussée à l'entrée ou autour de la prison pour empêcher les transferts et les allées et venues autour de la prison. Au même moment, des banderoles ont été déployées et on pouvait lire sur ces banderoles « Maton égale bourreau, nous voulons vivre » et sur une autre banderole « Nos passions pour la liberté sont plus fortes que vos barreaux ». Et de ce qui est mis, le nettoyage des lieux a nécessité plusieurs heures, donc apparemment ça a été quand même bien perturbé. Voilà par exemple le genre de choses qui peut se passer.
Justement, on peut enchaîner avec une autre nouvelle belge qui concerne la prison de Saint-Gilles. Donc il y avait une grève des services administratifs et psychosociaux qui était annoncée dans les prisons. Et donc suite à ça, des prisonniers de Saint-Gilles ont refusé de rentrer en cellule. Donc ils ont barricadé le préau en attendant l'intervention de la police qui est venue en masse avec hélicoptère et autopompe. Et il y a eu des affrontements à ce moment-là pour pas qu'ils puissent faire leur sale boulot bien tranquillement. Et apparemment, dans le quartier tout autour de la prison, il y avait des policiers qui s'étaient mis en garde à l'extérieur, dans l'idée qu'ils puissent, que c'était possible en fait qu'il y ait des réactions et des réponses dans le quartier au dehors, en solidarité avec ce qui se passait dedans.
Une autre nouvelle qui finalement se termine mal, mais qui était quand même plutôt une belle tentative, donc on a envie de la reprendre. Donc à Colmar, en Alsace, il y a eu une tentative d'évasion. Donc à l'heure de la promenade, un détenu a réussi à escalader le mur de la cour au moyen d'une corde de fortune fabriquée avec des morceaux de drap et de jeans. Il a franchi les barbelés. Après un parcours sur les toits, puis dans la cour d'honneur de la prison, il s'est retrouvé coincé dans la réserve de la cuisine, dont il avait forcé la porte. Malheureusement, des policiers étaient présents sur place et l'ont arrêté. Voilà, c'était apparemment avec un peu d'imagination et deux bouts de ficelle, on peut faire ce genre de choses et à peu de choses près, ça marchait. Le prisonnier, quand même, pour le petit truc, a expliqué avoir agi sur un coup de tête. Il se sentait pas bien en prison, il fallait qu'il parte. Bah voilà, on le comprend bien et on lui souhaite bonne chance.
Alors après, un rassemblement qui a eu lieu le 16 juillet, donc dans le Lot, dans un bled qui s'appelle Sauzé. Apparemment, il y a un site de construction d'une future prison. Et en fait, il y avait un rassemblement et un pique-nique auquel ont participé 130 personnes. Donc opposé à ce projet de construction de prison. Et ce qui est dit, c'est que une des raisons de l'opposition à ce projet, c'est que en fait les gens pensent que la prison c'est pas une solution et que il est temps d'élargir vraiment le débat sur et la réflexion de fond concernant les prisons. Donc voilà, en fait ça fait un peu écho aussi à un truc dont on a parlé peut-être la dernière fois, le fait que encore et toujours il y a des nouvelles prisons qui sont prévues en construction pour enfermer toujours plus de gens, pour que ceux qui gèrent les tôles se fassent toujours plus de thunes. Et que en fait la prison c'est une solution à rien, c'est juste une manière de continuer à faire fonctionner ce monde en menant tout le monde à la baguette. Et qu'on a envie de mettre en avant et d'intensifier toutes les oppositions qu'il peut y avoir aux prisons qui existent et aux prisons futures dont on voudrait qu'elles n'existent pas.
Voilà, et là maintenant on va passer dans un... On voulait revenir sur deux procès qui ont eu lieu durant le mois de juin. Alors il y en a un qui s'est passé à Chambéry, qu'on va revenir dessus là tout de suite. Et le deuxième, c'est un procès qui s'est passé à Paris, qu'on va vous expliquer juste après celui de Chambéry. Donc le 25 mai, pardon, il y a eu un procès à Chambéry. C'est une histoire qui remonte à 2009, lorsqu'il y a eu l'explosion d'une bombe artisanale. Et une personne est morte suite à cette explosion. Donc c'était dans une usine désaffectée. Une personne est morte, une autre a été blessée. Donc cette personne-là, elle a été inculpée. Il y a eu tout de suite une grosse descente de la police antiterroriste qui a perquisitionné plusieurs squats, dont celui où Mike, la personne donc, qui était blessée, habitait. Et donc l'affaire a été lancée. C'est comme ça qu'il y a une personne qui a pu être inculpée.
On précise, il n'habitait pas là-bas, mais ça fait partie des lieux qui ont été perquisitionnés.
Donc en tout cas, c'est comme ça que l'enquête a été menée autour de ces lieux, c'est qu'il y a une personne qui avait été retrouvée blessée. Et donc cette personne elle était inculpée pour l'effet d'avoir fait une tentative de bombe artisanale. Et trois autres personnes étaient inculpées dans la même affaire, notamment et principalement pour destruction de preuves. Donc le procès a eu lieu le 25 mai. Et voilà, à ce moment-là du procès, il y a...
Il y a un compte-rendu du procès, en fait, qui est disponible sur Internet par des gens qui y ont assisté et qui avaient envie un peu de proposer des infos et des réflexions sur la manière dont les avocats peuvent faire des défenses dans ces moments-là. Et puis en fait, on avait envie de reprendre un peu une déclaration qui a été faite par une personne, donc par Mike, à la fin du procès, parce qu'il n'avait pas... très envie de répondre aux questions qui lui étaient posées par le juge d'une manière générale, mais par contre envie de poser un certain nombre d'idées et qui ont été ce qu'il a fait avec ce texte en fait qui a été lu et entendu à ce moment-là, et on avait envie d'en lire des bouts. On avait envie aussi de dire c'est quoi le rendu de ce procès. Du coup il y a eu un an dont 6 mois ferme pour la personne qui est accusée par rapport à utilisation d'engins explosifs. Voilà, donc on voulait lire certains extraits du texte, quoi.
Et après, on voulait aussi dire que c'était pas spécialement un exemple, que c'était un choix qui avait été posé par la personne, mais qu'en tout cas, ce qu'on trouvait vraiment intéressant, c'est son rapport de non-collaboration à la justice et au juge, même au moment de procès, qui de nouveau, ça doit pas être un nouveau mot d'ordre, c'est pas nécessairement comme ça qu'on doit se défendre, mais en tout cas, ça a posé un rapport assez clair de lui, son ressenti face à la justice, qui n'est pas juste un rapport personnel, qui est aussi un rapport politique. Et donc ça, là, on va lire des extraits de sa déclaration. Donc ça commence comme ça. « Les quelques mots que je vais prononcer n'auront pas la vocation de me défendre, mais celle de placer cette journée passée dans un tribunal et le rôle de la justice dans le contexte social actuel. » Je ne reviendrai pas sur les faits m'étant reproché pour plusieurs raisons. Contrairement à vous, magistrats en tout genre, ces faits m'ont touché au plus profond de ma chair et de mon cœur. Et si vous pensez avoir quelque chose à rajouter à ma peine, cela se fera sans ma collaboration et sans que vous exerciez un rapport de force physique sur ma personne. Ne vous attendez pas à ce que je ne me châtie plus que ce que je n'ai déjà fait pour moi. De quel droit pensez-vous pouvoir me juger? Quel prétexte vous donnerait une supériorité quelconque sur qui que ce soit? La société que vous défendez ne me correspond pas, non parce que je suis né du côté des opprimés, mais parce que je ne veux pas faire partie des oppresseurs. Dans ce dossier, la question de la violence fut souvent abordée. On m'a systématiquement questionné sur la violence de mes actes et de mes intentions, mais jamais on ne m'a questionné sur ce que représente la violence à mes yeux. Or, la violence est un concept et donc on n'a pas de définition universelle. Ce qui paraît violent pour quelqu'un ne le sera pas forcément pour d'autres. Si on me demande aujourd'hui si je suis violent, la réponse est oui. De la même manière que si l'on me demande si je vous considère comme des individus violents, je répondrai également par l'affirmative. Dans une réalité sociale telle que nous la vivons actuellement, personne ne peut, selon moi, avoir la prétention de se déclarer non-violent. Il me paraît donc plus intéressant d'observer à qui profite cette violence. A-t-on vu beaucoup de précaires, de marginaux, d'immigrés fuyant la merde qu'a fait l'Occident dans leur pays profiter de cette violence ? Non. A-t-on déjà pris en compte la violence des concepts urbanistiques réalisés par Le Corbusier et autres de vos sbires dans les révoltes de banlieue ? Au contraire, elles sont systématiquement criminalisées. Quelle est la violence d'une voiture brûlée lorsque cet acte est la suite d'années de mise à l'écart et d'oppression sociale ? Parlons-nous de violence du système carcéral qui est telle qu'environ 120 personnes par année préfèrent la mort que d'être enterrées vivants ? Non. Là encore, vous criminalisez les mouvements des prisonniers et des prisonnières et élaborez sans cesse de nouvelles stratégies, de nouvelles architectures, de nouveaux aménagements de peine afin de diviser et écraser encore plus violemment les personnes confrontées aux réalités carcérales. Magistrat, si vous me considérez comme un individu violent, sachez que je vous envoie la réciproque. La différence entre nous est que vous cherchez à maintenir cette violence pour garder vos avantages sociaux, alors que je cherche à m'en affranchir afin que chaque individu puisse s'émanciper et devenir libre. Votre morale est celle du capital, celle de la conservation de ces sociétés patriarcales séparées en classes sociales, où tout se vend et tout s'exploite. Nous n'avons pas les mêmes intérêts.
Voilà, on va dire quelques mots aussi du procès Mauvaises Intentions.
Donc on n'a pas vraiment préparé, ça risque d'être un peu fouillis. Mais en tout cas, donc, c'était un procès qui tournait autour de 6 personnes qui étaient inculpées de différents faits, mais que la justice avait décidé que ces différents faits faisaient partie d'une même association de malfaiteurs à but terroriste. Donc c'était le premier procès antiterroriste en France autour de personnes qui luttent pour des idées anti-autoritaires depuis peut-être une trentaine d'années, je dirais. Donc il y avait aussi un enjeu à ce niveau-là. Un enjeu pour la justice et la police de faire passer ça, en effet, comme du terrorisme, et de l'autre côté, d'essayer de réfuter cet argument. Donc les inculpations tournaient autour, on va pas détailler pour chaque personne, mais tournaient autour d'une tentative d'incendie d'une voiture devant un commissariat. La voiture, c'était une dépanneuse, donc on risque de dire dépanneuse de temps en temps, mais voilà, en tout cas un véhicule. Deux personnes qui s'étaient fait interpeller à un péage et qui avaient dans leur voiture des plans originaux d'une prison qui était en construction et un produit qui pouvait être utilisé pour des explosifs, mais je me souviens plus c'était
du quoi corps.
Qui en effet peut être utilisé pour des explosifs, mais pas uniquement. D'autres personnes c'était pour avoir été interpellées alors qu'elles avaient en leur possession
Des fumigènes,
enfin c'était pas des fumigènes, justement c'était les composants qu'eux ont dit que c'était pour faire des fumigènes, alors qu'ils se rendaient à une manifestation devant le centre de rétention à la proximité de Paris. Les autres personnes, il y avait encore une personne à qui on a remis aussi une tentative d'incendie sur un boîtier électrique au moment du CPE, donc du gros mouvement contre les contrats première embauche qui avait eu lieu en 2006. Et donc il y avait eu plusieurs tentatives de sabotage sur des trains, dont un qui avait été une tentative d'incendie sur un boîtier électrique. Et donc les ADN, selon la police, correspondaient. Et donc il avait été chargé de ça aussi.
Du coup, les gens y passaient pour tous ces faits mis ensemble dans une même affaire.
Et donc voilà, le procès a eu lieu au bout de 4 ans d'enquête. Le procès a eu lieu, c'était aussi au mois de juin, c'était vers le 15 juin. Donc il y avait eu un rassemblement quand même plus ou moins important lors du premier jour d'audience. Pas mal de bazar, hein. Il y avait eu un peu quand même de bordel. L'audience qui commence pas directement parce que les soutiens sont à l'extérieur. Et voilà. Donc au final, donc les 6 personnes... Il y a une personne qui est complètement relaxée, donc c'est Franck, elle est reconnue complètement non coupable de tous les faits qui lui étaient incriminés. Par contre, toutes les autres personnes sont donc Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a trois autres personnes qui sont relaxées pour le refus d'ADN. Donc ça a été défendu par les avocats et devant les juges, le fait d'avoir refusé la signalétique ADN, et elles ont été relaxées pour ça. Par contre, elles sont retenues coupables de tous les autres chefs d'inculpation. On va pas faire le petit tour pour chaque personne, parce que ce serait un peu technique, et de toute façon, on va pas le retenir. Mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la prison préventive qui avait été effectuée par chacune de ces personnes, en gros, il y a très très peu de chances qu'elles y retournent, vu que ce qui a été les condamnations qu'elles ont reçues équivalent plus ou moins à ce qui a déjà été fait. Et un autre point un peu intéressant donc, sur cet enjeu de maintenir le caractère terroriste ou pas des inculpations, là, les juges ont décidé qu'en effet, le caractère terroriste était justifié et donc a été maintenu.
Peut-être que ce qu'on peut rappeler, en fait, c'est que ça nous semble super important de pouvoir diffuser les infos de ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir relayer les choses dehors, dans d'autres prisons, créer de la solidarité, intensifier les luttes, etc. Et que pour ça, c'est aussi super important que les infos elles sortent. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette émission, en fait. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie justement de parler un peu de ce qui se passe à l'intérieur. Vous pouvez nous contacter soit par mail sur lesmurs, donc lesmurs @riseup.net. Vous pouvez aussi nous contacter par courrier. Donc l'adresse c'est Les Murs ont des oreilles, BP 422, Radio Kaléidoscope et Grenoble 38018. Voilà, Les Murs ont des oreilles, Radio Kaléidoscope, BP 422, Grenoble 38018. Le mois d'août, il n'y aura pas d'émission, donc on va se retrouver en septembre. On vous souhaite bon courage. On espère que les mouvements qui ont lieu en ce moment à Rouen vont faire que les trucs dégueulasses que les matons font vivre aux prisonniers vont plus se passer de la même manière et que ça va faire gagner en solidarité pour les prisonniers et créer un rapport de force un peu différent. Voilà, à bientôt.
À bientôt.